Mesdames et messieurs, oui, aujourd'hui j'applaudis. J'applaudis car l'humanité a enfin commencé à agir. J'applaudis car hier, des milliers de jeunes étaient dans la rue pour manifester. J'applaudis toutes ces odes à l'espoir qui fleurissent dans le monde entier. Comment ça? Que dites-vous? Rien n'a changé? Le monde est toujours aussi dangereux, injuste, bête et méchant qu'auparavant? Raison de plus pour redoubler d'efforts. Il faut agir, ensemble, coûte que coûte et sans tarder. Qu'importe les conséquences, mieux vaut agir plutôt que regarder et laisser faire. Comme l'a dit le philosophe Edmund Brunk, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Alors ce soir, rendons hommage à Einstein. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Mais est-ce pour autant toujours bien d'agir, même par exemple dans la précipitation? Ne dit-on pas toujours réfléchir avant d'agir? Prenez comme exemple Donald Trump. Il a récemment réouvert les mines de charbon. Il a agi, bravo à lui! Mais a-t-il pour autant bien agi? Avec son geste, Donald Trump a fait un pas supplémentaire vers le réchauffement climatique. Alors, agir plutôt que laisser faire, c'est parfois aussi rendre le monde encore plus dangereux à vivre. Enfin, quoi qu'on en dise et quoi qu'il en ait, ce n'est pas comme si l'homme allait agir. Il agit si rarement. Mais savez-vous ce qui est le pire, mesdames et messieurs? C'est que cette inaction est naturelle chez la vaste majorité des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la science. La science a appelé ça l'effet témoin, ou l'effet Kitty Genovese. Alors, qui est Kitty Genovese? Voici sa charmante petite histoire. Kitty Genovese est une jeune américaine de 29 ans. Elle rentre du travail vers 3h du matin. Comme à son habitude, elle gare sa voiture dans un parking à une trentaine de mètres de son appartement. Elle fait quelques pas, quand subitement, un homme sort de la pénombre et la poignarde à deux reprises. Elle s'écroule sur le sol et commence à crier de toutes ses forces pour que quelqu'un intervienne. Et, par chance, un homme criera par sa fenêtre. « Laissez cette jeune femme tranquille !» L'agresseur prend peur avant de partir en courant. Kitty utilise ses dernières forces pour rejoindre son appartement. Elle est maintenant dans la rue de celui-ci. Quand, soudain, son agresseur sort de nouveau de l'obscurité. Il vient finir ce qu'il a commencé. Quand Kitty le voit, elle hurle immédiatement de toutes ses forces, suppliant quiconque de venir l'aider. Personne, je dis bien personne, n'interviendra. L'agresseur tuera Kitty de 9 coups de couteau et finira par lui trancher la gorge avant de la violer. Ce n'est qu'après, et quand le meurtrier sera déjà loin, qu'enfin, un des voisins daignera appeler la police. Mais alors, comment sait-on ce qui s'est réellement passé? Eh bien, suite à l'enquête de police, nous savons que près de 38 témoins auraient entendu les cris de la jeune femme, mais qu'aucun n'est intervenu. Me direz-vous peut-être, c'est les Américains. Nous, Européens, nous aurions agi. L'effet témoin ne nous concerne pas. Vraiment? Un exemple parmi tant d'autres. Aux Pays-Bas, une jeune Marocaine de 9 ans s'est noyée devant près de 200 personnes dans le parc de Rotterdam. Vous voulez un autre exemple? Les sans-abri. Dans la salle, qui a déjà offert son toit, ne serait-ce que pour une nuit, à un sans-domicile fixe? Alors vous n'avez pas agi? Vous avez été pire que ceux qui ont poussé ce pauvre homme ou cette pauvre femme à la rue. Et moi, malheureusement, je suis là à vous accuser, mais je suis un des principaux coupables. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Malheureusement, l'homme a bien plus tendance à regarder et laisser faire. Mais sachez en revanche qu'il reste de l'espoir. Toujours selon la science, pour contrer l'effet témoin, il suffit de le connaître. Alors gardons espoir. Mais pour autant, devons-nous toujours agir? Devons-nous toujours tenter de combattre le mal pour rendre ce monde moins dangereux à vivre? Utilisons un exemple, celui de la tragique histoire de la rafle du Veldiv. Nous sommes le 16 juillet 1942. 13 000 juifs expulsés de leur maison sont contraints et forcés de partir pour le vélodrome d'hiver. Pour une fois, ce n'est pas que des hommes qui vont être déportés, mais aussi des femmes et des enfants. La chaleur est insoutenable pour ces 13 000 personnes. Les enfants sont assoiffés et pleurent. Les hommes et les femmes crient, demandent de la nourriture, de l'eau, de la pitié. Ce spectacle morbide se passe au beau milieu de Paris. Tous les Parisiens soupçonnent ce qui est en train de se passer au Vélodrome, mais aucun n'a agi. Comme l'a dit Max Frisch, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Mais pourquoi les Parisiens n'ont-ils pas agi, me demanderez-vous? Je vous répondrai, que pouvaient-ils faire? Des milliers de personnes ont été déportées par les forces de l'ordre de votre propre pays. Que faire dans ces cas-là? Ils auraient pu tenter de forcer le passage avec l'énorme risque de se faire tuer. Ou pire encore, prendre le risque de représailles, autant pour les juifs que pour sa propre famille. Dans ce cas, aurait-il fallu prendre le risque de nous-mêmes rendre le monde encore plus dangereux à vivre qu'il ne l'est déjà pour les autres, mais avoir agi? Ou fallait-il rester simple observateur passif? Je vous laisse peser le pour et le contre. Auriez-vous pris les armes malgré le risque? Ou auriez-vous été simple spectateur? Auriez-vous été résistant ou bourreau? En guise de conclusion, sachez que de tout mon âme, de tout mon être, de tout mon cœur, je voudrais agir. Je voudrais ne plus être qu'un simple colibri, seul, faisant son infime partie. Je voudrais pouvoir, d'un claquement de doigts, régler tous les problèmes du monde. Je voudrais pouvoir arrêter les incendies, le réchauffement climatique, les tsunamis. Je voudrais pouvoir arrêter la violence qui a commencé depuis des dizaines d'années. Non, des centaines d'années. Que dis-je, des milliers. Je voudrais pouvoir arrêter les meurtres, les viols, les massacres qui n'ont que trop duré. Mais seul, je ne peux pas y arriver. Alors, je vous le demande, je vous l'implore, je vous le crie, je vous en conjure, agissez! Cela peut paraître utopique, mais soyez avec moi, un colibri, bientôt rejoint par des milliers, pour éteindre le feu que l'humanité a elle-même allumé dans cette forêt qui nous a hébergés, qu'on a nommée planète Terre bien-aimée. Merci. Comment faire rimer économie et écologie? Un problème inactuel. Beaucoup de livres sont récemment sortis, traitant du problème de notre monde à toujours se dégrader par rapport au climat. Et on dit, agissez, par pitié, il faut que vous changiez vos habitudes. Mais n'avez-vous jamais remarqué que, par exemple, être vegan, on va se décider d'arrêter la viande, admettons. Donc on va acheter des steaks sans viande. Vous remarquez que le prix double par rapport au steak normal? C'est idiot, mais pour une personne dans le besoin, pour une personne qui a des problèmes d'argent, ça peut paraître compliqué de se dire du jour au lendemain, qu'importe mon budget, qu'importe mon argent, je décide de faire un pas pour le climat, pour la planète, pour les autres. Eh bien, c'est bien difficile. Je peux admettre que économie et écologie peuvent ne pas être indissociables. Mais c'est extrêmement compliqué, surtout à l'heure à laquelle on vit. On peut acheter de la sous-marque, mais prendre parfois le risque de l'écologie. On peut acheter des choses à des prix astronomiques, comme un iPhone par exemple, mais est-ce toujours écologique? Ou on peut justement décider de faire le choix de l'écologie à tout prix, mais comme présenté plus tôt, avoir des problèmes en économie? Il est difficile de les faire rimer, je le conçois, mais je pense que tout est possible à grand coup de recherche, de détermination, mais surtout d'énormément de volonté. Alors, ce ne sera pas facile tous les jours, je peux l'admettre. Passer dans un magasin bio, tenter de trouver le meilleur produit, le moins cher, mais toujours penser à son prochain, je crois que c'est le maître mot qui doit vous définir. Dans votre façon de faire, comme de penser. Qu'importe ce que vous allez acheter, pensez juste à votre prochain, à la planète et à tous les problèmes actuels. Parce que les gestes les plus minimes, comme « j'ai simplement acheté un steak, quel est le problème ?» et « je suis encore un des premiers coupables », eh bien, à votre simple échelle, vous favorisez tant de choses. J'ai parlé récemment avec un ami qui m'a expliqué qu'il buvait très rarement du coca. Et je lui ai demandé « mais tu viens de faire la marche du climat, et juste après, tu bois un grand verre de coca. Ne trouves-tu pas ça débile de, après avoir décidé de combattre, entre guillemets, une multinationale, tu bois de cette multinationale ?» Et il m'a répondu « oh, ça va, laisse-moi. J'ai besoin de me désaltérer. J'ai besoin de simplement avoir mon petit coca par semaine. » Et c'est ça qui m'a perturbé. Je me suis dit « mais, mon ami, tout est relatif. Mon ami, tu dis un petit coca par semaine, c'est à ta simple échelle, mais imagine le nombre de personnes qui font ça et qui se justifient comme toi. C'est l'histoire du simple colibri. On l'a déjà expliqué, merci à toi. Un colibri qui viendrait plutôt rallumer les flammes, en donnant du vent. Il fait une infime partie, mais pourtant, il rallume les flammes et il les fait exister encore plus, plutôt que de tenter de les éteindre à son infime possibilité. Alors, je pense réellement, et encore une fois je vous le demande, pensez à votre prochain et pensez à tous les problèmes. Quand vous aurez simplement faire vos courses, marcher dans la rue, ou des simples actions qui peuvent vous paraître bêtes, réfléchissez-y. Merci beaucoup de m'avoir écouté.